Sud Radio, Regard de femme.
Regard de femme, j'accueille Aurore Boyard. Bonjour Aurore.
Bonjour Billy.
Ça va bien ?
Très très bien, puisque nous on n'a pas de petit pour l'instant.
Et oui, je vous rappelle que vous êtes avocate à Toulon. Et puis à vos côtés ce matin, Michel Vianès. Bonjour Michel.
Bonjour Billy, bonjour à toutes et tous.
Présidente de l'association Regard de Femmes. Aujourd'hui, ce regard va être lourd. Hein. On est dans une affaire, j'allais dire, l'affaire Vincent Lambert. C'est un drame de la vie, c'est un drame familial. Et la loi dans tout ça ? Et la loi dans tout ça, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Et puis, Aurore, n'y voyez aucune attaque. Bon, on reviendra quand même sur l'attitude des avocats, des parents de Vincent Lambert. Alors, les filles, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio? Comment prendre le problème ce matin? Quelle est la première chose à décrypter?
Alors, pour moi, d'abord, bien sûr, Vincent Lambert est l'objet d'un combat d'intégristes catholiques, en particulier également d'une haine de la femme et d'un mépris, puisque la parole de l'épouse de Vincent Lambert n'est absolument pas retenue ou prise en compte. Mais je voudrais surtout insister sur la décision de la Cour d'appel de Paris, parce qu'elle est dangereuse,
c'est-à-dire,
et je pèse mes mots, elle est dangereuse pour la démocratie. On a une décision de la Cour d'appel de Paris, qui vient bien sûr en contradiction avec le Conseil d'État, Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui s'appuie, elle, sur la loi et le droit français. Et, par contre, la décision de cour d'appel s'appuie sur, non pas sur la loi, mais sur un avis d'un comité d'experts. Comité d'experts sur les handicaps, Vincent Lambert n'est pas en situation de handicap, il est en état végétatif, et ces comités d'experts ne représentent ni les États, ni une juridiction. Et ces conseils d'État qui ne sont ni l'ONU ni une juridiction, donc qui n'ont pas de pouvoir juridique, se permettent de donner des avis. Mais face à cet avis, c'est l'État qui doit répondre. Et la République française a bien répondu en s'appuyant sur le droit. Or, stupéfaction, avec les manifestations de liesse éhontée que nous avions vues, la Cour d'appel a décidé de sursoir au traitement que devait subir donc Vincent Lambert, parce que un comité lambda a décidé qu'il fallait qu'il ait le temps de réagir. Là, c'est absolument inadmissible. Alors, ça a déjà été fait sur la liberté religieuse avec l'affaire donc Babylou, mais ça va bientôt être fait parce qu'on sait très bien qui manipule et maîtrise ces comités onusiens. Ça peut être fait demain sur l'avortement, sur le port d'armes, etc., etc.
Est-ce que ça veut dire que
c'est le point fondamental. Oui.
Est-ce que ça veut dire donc que ce comité viole la loi ?
Il n'a pas respecté la loi, c'est pas son problème, la loi.
D'accord. Hein,
il ne connaît pas la loi, il ne respecte pas la loi. C'est à la cour d'appel de calmer le jeu. Le droit s'est quand même fait là pour calmer le jeu. Je pense que Aurore sera tout à fait d'accord avec moi, les décisions de droit, et pour appliquer la loi du pays, ou des conventions qui s'imposent à la France. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas.
Oui. Aurore ?
Alors, moi, je vais répondre parce que j'ai lu l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'a dit Michel. La Cour d'appel de Paris, alors effectivement, Michel a raison, l'avis du comité de l'ONU ne lit personne ni quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le comité de l'ONU est saisi. Il n'a pas encore rendu son avis. La Cour d'appel de Paris a dit qu'il fallait reprendre les soins dans l'attente de l'avis. Pourquoi elle a rendu ça? C'est parce que la France, qui n'était pas obligée, a signé une convention internationale au terme de laquelle la France s'engage tout simplement à attendre que l'avis soit rendu. Donc la Cour d'appel a dit quoi? Elle a dit voilà, vous avez signé une convention internationale, certes qui n'est peut-être pas obligatoire, mais vous vous êtes quand même engagé à la signer, ça veut donc dire que vous vous engagez à la respecter. Le comité est saisi pour avis, et bien on va attendre l'avis du comité. Là où je suis parfaitement d'accord avec Michel, c'est que l'avis du comité ne lit personne. C'est-à-dire qu'il ne lira pas la France, c'est un avis qui est purement consultatif et rien d'autre. Donc ce que la Cour d'appel a dit, c'est vous avez, en gros elle dit, vous avez signé quelque chose, ben vous allez tenir votre parole, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pas une grande victoire. Hein. D'abord, c'est ce dossier, c'est moi je trouve ça effarant, mais c'est pas une victoire non plus pour les parents de Vincent Lambert, donc les explosions de joie. Il a simplement un répit, Vincent Lambert. Tout simplement parce que la France ne sera pas tenue de suivre l'avis, mais la Cour d'appel lui a dit, vous avez signé cette convention par laquelle vous vous engagez à attendre l'avis, vous allez le faire. Donc, on ne sait pas quand cet avis va être rendu. Normalement, il devrait être rendu, compte tenu des délais, dans les 3 ou 4 mois qui viennent. On ne sait pas, on l'attend. Donc, ce qui va être intéressant sur le point de vue juridique, ça va être de voir, si vous voulez, quand cet avis va être rendu, ce qui va se passer. Parce que si l'avis est positif, j'imagine fort bien que les parents de Vincent Lambert vont commencer à dire que la France est tenue par cet avis, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est pas... Voilà. Et de l'autre côté, ils vont dire l'inverse. Donc, en fait, ils ont gagné une bataille pour l'instant. C'est tout. Et c'est vrai que la réaction des avocats, est-ce que vous m'attendez là-dessus?
Oui, non, mais c'est normal.
Il est certain que ça a offusqué énormément l'opinion publique. Ça a même offusqué des confrères, je ne vous le cache pas. On a dans notre serment, on a la dignité. Et c'est quelque chose qui... on a tous des dossiers difficiles, je veux dire. Et on ne fait pas de remontada. Enfin, voilà. C'est extrêmement choquant. Ça, je peux le comprendre. C'est clair. Même moi, ça m'a choquée. Après, ça peut s'expliquer dans le sens où ça a dû être ce dossier, on est dans l'exagération la plus totale. Il y a des vidéos quand même qui circulent aussi de Vincent Lambert. C'est une souffrance terrible pour tout le monde. Et il est instrumentalisé, ce monsieur, en fait. Il est instrumentalisé par un petit peu tout le monde. Et je ne souhaite véritablement, et moi, je vais signer les documents. Ça engage tout le monde à le faire, toutes les personnes qui veulent, qui se retrouvent dans un état végétatif, qui se retrouvent dans un état où ils ne peuvent pas faire part de leur volonté. Et on peut télécharger sur Internet, hein, ils sont librement accessibles, des documents qui nous permettent de dire ce que l'on veut, si on se retrouve dans le même état que Vincent Lambert. C'est terrible de voir des familles se déchirer comme ça, porter ça à l'opinion publique, avoir des vidéos où on le montre sur son lit. C'est honteux, on est au-delà de toute dignité et je rappelle que nous, les avocats, nous avons prêté serment de dignité que nous devons respecter.
Michel, est-ce que ça veut dire que dans 6 mois, on remet l'affaire encore sur le devant de l'actualité?
Oui, donc le côté inhumain de cette torture morale, hein, pour les uns, pour les autres. Donc là, c'est absolument inadmissible. On est dans un état d'esprit qui me paraît totalement... inhumain. Et comme je l'ai dit, comme l'a répété à nouveau Aurore, Vincent Lambert est instrumentalisé par un combat d'intégristes catholiques. Hein, il faut quand même me dire ce qu'il en est. Et puis quand on a vu, je dirais également que nous nous retrouvons dans une situation qui est indécente, bien sûr. Et puis, surtout, la décision de la des personnes vis-à-vis de la mort. On peut pas décider de notre naissance.
Non.
Mais la décision vis-à-vis de la mort, et ceci rappelle, et je me permets de rappeler aujourd'hui, parce que je suis sûre, la lettre d'Anne Baer, qui vient après avoir, vous savez, Anne Baer, c'est cette femme qui est atteinte depuis 2 ans de sclérose latérale amyotrophique, et qui a décidé d'aller à l'étranger pour pouvoir terminer dignement sa vie, et qui en a fait le choix. Et là, moi, je pense que par-delà, bien sûr, la décision de tous, et je conseille ardemment, moi je sais que je l'ai fait, hein, depuis quelques temps déjà, d'avoir écrit ses volontés, il est important aussi que la loi soit changée, parce que comme l'a dit la loi Leonetti est trop stricte, elle ne prend pas vraiment
Je me souviens très très bien temps que ça a pris pour
On est sur une question de droit humain fondamental. Hein. Donc c'est normal que ça prenne du temps. J'ai pas dit que ça se décide pas d'un claquement de doigts. Mais par contre, on a l'impression que penser la mort ferait mourir. Donc c'est pas du tout le cas. Et il faut quand même qu'on pense à décider que les êtres humains, femmes et hommes, ont la possibilité de décider en leur âme et conscience s'ils veulent accepter des soins palliatifs, une aide active à mourir, ou pas du tout.
On a bien compris que...
Parce que ce n'est pas parce que la loi permettrait que ça obligerait les uns ou les autres à subir, à agréger leur fin de vie.
Voilà, on l'a bien compris. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut absolument qu'on ait la possibilité d'avoir le choix, nous, si ça nous arrive un jour, ce qui évitera de détruire les familles. On comprend que des parents n'ont pas envie de voir partir leur enfant, quel que soit son état, que les frères et sœurs ne soient pas d'accord. Donc il faut nous redonner quelque part le droit de notre mort.
Oui, mais alors en fait, la difficulté, c'est que souvent, la mort, c'est un sujet tabou.
Bien sûr.
Souvent, faire un testament, on n'a jamais fait mourir. Et écrire ses volontés, si des fois on se retrouvait dans un état tel qu'on ne pourrait pas exprimer ce que l'on souhaite, ça n'a jamais fait mourir. Donc c'est vraiment un tabou contre lequel il faut lutter. Je terminerai en disant qu'Olivier Farlorini a proposé une loi, donc il y a quelques heures, en disant qu'il faudrait une hiérarchie de la parole portée par les proches et qu'il faudrait privilégier le choix finalement de la parole conjoint. Alors c'est très compliqué là aussi, parce qu'il dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit son conjoint. Ben oui, mais il y a des gens qui restent mariés et qui vivent séparés depuis des années.
Et
donc
oui.
Là aussi, on ouvre la boîte de Pandore et ça va être très compliqué. Non, en réalité, je pense qu'il faut véritablement faire un travail de fond pour que les gens décident, avant malheureusement que ça leur arrive, hein, parce que de choisir, de mettre par écrit ce qu'ils souhaitent, et ça serait la meilleure solution pour tout le monde.
Et c'est le mot de conclusion de Regard de Femme. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci Aurore. Et puis bien sûr, Regard de Femme, rendez-vous dès la semaine prochaine sur Sud Radio. Ok ?
Au revoir, bonne journée.
Au revoir.